Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus. Comme vous le savez peut-être, c'est votre nouveau rendez-vous du samedi matin à 11h très précisément sur Europe 1. Et que vous soyez en vacances ou pas encore, voici quelques sites, 4 d'ailleurs, tous en France, tous originaux et qui méritent votre curiosité. Mais ils ne figurent pas tous dans vos guides touristiques traditionnels. Et bien justement, c'est là qu'on intervient. Bah, exemple, avec un site catégorie patrimoine. Nous irons à Nîmes. Vous allez me dire, il ne va pas nous faire le coup des arènes. Effectivement, je ne vais pas vous faire ça. Je vous propose d'aller juste en face des arènes pour découvrir un musée de ce que l'on appelle la Rome française. Et oui, Nîmes. Autrement dit, tout ce qui concerne la période gallo-romaine et sur laquelle on ne sait peut-être pas tout. Juste après, visite d'un site, dit lui, du savoir-faire français dont vous ne soupçonnez pas, même pas, que l'on puisse le visiter. Ça ressemble, vous allez voir, oui, à la radio, on peut voir aussi quand c'est bien expliqué. On dirait un décor d'un film de James Bond. Alors celui-là, alors, attention, c'est du lourd. On vous emmènera dans les usines d'Airbus. C'est le fleuron, vous savez, de l'industrie aéronautique française et européenne, avec visite guidée sur 3 parcours différents. Et pour finir, comme on le fait à chaque fois, dans cette émission, une balade originale. Celle-ci est en sidecar. Où ça ? Autour d'Aix-en-Provence, sur les traces, entre autres, de Paul Cézanne. Voilà, ça c'était le programme. On attaque tout de suite dans la série Insolite. Direction la Bretagne, et plus précisément le Finistère. Alors, si je vous dis Bretagne, mystère, paysage, forêt sombre, qui tout ça change selon l'heure, les marées, le vent, etc. Oui. Là, on est d'accord. Et à tout ça, vous ajoutez une île, oui, avec un phare en pierre, le plus grand du monde. Et là, ça change tout. Pourquoi pas ? Parce qu'on peut dormir. Alors, dans le phare, juste à côté. Alors, vous imaginez la situation. Notre partenaire du guide du routard, Gavin Sclementerus, qui n'a pas le vertige, lui, va vous dire maintenant où se situe ce phare, sur quelle île et qu'est-ce qu'on peut y faire et à quel prix aussi, tiens. Pourquoi pas ?
Ouais. Bonjour William, bonjour à tous. Eh ben oui, je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans l'ordre. Alors,
intérêt.
Alors oui, il est possible de dormir dans cet ancien phare. On est sur l'île Vierge, en face de Plouguerneau, à moins d'une heure de route de Brest. Mm-hmm. On l'a déjà, c'est pour situer le cadre. Ce phare, il mesure quand même 82,50 mètres, c'est précis. Hein, 82,5.
Ça veut dire que c'est très haut par rapport à la moyenne.
Ah
quoi.
Ouais, c'est très très haut. Il a été construit entièrement en granit. Ça, c'était au 19e siècle. À l'intérieur, là, c'est vraiment très beau. Il est tapissé d'opaline. L'opaline, c'est une sorte de carrelage un peu bleuté. C'est vraiment très beau, avec l'escalier en colimaçon.
Bah, oui,
vous
oui.
Prenez votre temps pour monter. Il y a 365 marches. On aimera la symbolique, encore une fois. Et vous grimpez au sommet.
Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Gaïd Leneil, qui est chargé de communication au Pays des Abers. Alors, ça fait beaucoup de choses qui méritent des explications. D'abord, le prénom. Bonjour, Gaïd.
Bonjour.
Alors, votre prénom s'écrit Gaïd. Alors, si je ne me suis pas trompé, c'est un pronom breton, je suppose, non ?
Exactement, c'est ça. Vous ne pouvez pas se tromper.
Autre chose, vous nous dites ce que c'est que le pays des Abers ?
Oui, alors le pays des Abers, en fait, ça se situe, comme on vient de l'expliquer, au nord de Brest. En fait, les Abers, ce sont des bras de mer qui rentrent dans la terre. Ce sont d'anciennes vallées fluviales, donc ça offre un paysage qui change avec les marées. Et on va avoir également une côte qui a de jolies dunes de sable et aussi pas mal d'amas rocheux, hein, ce qui cause pas mal de problèmes, justement, en termes de navigation, d'où la présence de phares.
Alors, pourquoi cette idée d'en faire un lieu plus touristique maintenant ?
Alors, le petit phare, c'est vrai, depuis 2010, n'était plus occupé, plus de gardiens y vivaient. Donc, il a fallu trouver un moyen de lui redonner vie. Et le Conservatoire du Littoral, notamment, a mis en place ce beau projet qui permet, après une longue restauration, de l'ouvrir à nouveau aux habitants, aux habitants de l'île.
Combien de personnes vous pouvez accueillir dans ce gîte ?
Alors, il y a une capacité d'accueil de 9 personnes, plus un bébé, donc réparti en quatre chambres. Et puis le logement, voilà, il s'étend sur 2 niveaux.
D'accord, donc ce sont des chambres, ce ne sont pas des dortoirs comme on peut en trouver parfois dans des gîtes de montagne. Là, ce sont des vraies chambres.
Oui, tout à fait. C'était important de garder déjà l'identité de l'hébergement. Hein. Les gardiens avaient, il y avait 4 chambres, donc on a gardé les mêmes emplacements, bien sûr. Et on peut comme ça assurer quand même la tranquillité, l'intimité de tous, hein, vu qu'il y a plusieurs chambres pour 2 personnes et une pour 3.
D'accord. Cet endroit est classé, vous l'avez souhaité comme ça, ou c'est le conservatoire du littoral, éco-gîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, un éco-gîte, en fait, l'idée de ce site, c'était justement de se faire tout petit. C'est la nature qui nous accueille, donc il faut limiter notre impact sur cette île. Donc, les énergies vertes ont été mises à l'honneur pour alimenter les équipements du phare, du gîte en particulier, avec des éoliennes, des panneaux solaires. Il y a aussi une gestion de l'eau qui est très précise, très pointilleuse. Mmh. Et évidemment, on essaye au maximum d'inviter les visiteurs à repartir avec leurs déchets. Et puis évidemment, ils sont triés.
Bien sûr. Compte tenu de la taille du phare, il faut réserver longtemps à l'avance. Parce que bon, il y a 9 places et pas plus.
Oui, alors c'est vrai que les réservations partent très vite. Il y a peu de phares dans lesquels on peut dormir comme ça, surtout en Bretagne. Donc, en général, il faut se prendre plusieurs mois avant, en général l'année d'avant, pour être tranquille, pour avoir la date qu'on souhaite.
Merci beaucoup Gaïd. En vous entendant, en entendant votre voix, je me dis tiens, elle doit être au lycée. Non, c'est vrai.
Et non.
Et non.
Elle est sur l'île Vierge.
Elle est sur... Voilà, Gaïd Marguerite. Merci beaucoup de vos explications. J'espère que nos amis d'Europe 1 iront, quand ils passeront en Bretagne, visiter ce phare et même y rester. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et beaucoup de visiteurs, bien sûr. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
Bon, alors... Comment on fait pour visiter ce phare ? On réserve où dans cet éco-gîte ?
Alors, le phare se visite, William, d'avril à octobre. C'est parfait, on est pile dans la bonne période. C'est 4€ pour un adulte, 2€ pour les enfants. Alors, on peut y aller en bateau, Gaïd nous l'a dit. On peut y aller à pied pendant les grandes marées, ça, ce sera pour l'année prochaine.
Mais, aussi, mais quand je vois le site là où il est en kayak, oui, bah, il faut savoir. Hein.
Faut savoir.
Non, parce qu'il y a plein de rochers tout autour de l'île.
Vous irez à l'office de tourisme de Plouguerneau pour qu'ils vous disent tout pour avoir la bonne période et le bon moment pour faire la bonne expédition. Et parce qu'on tient à vous, hein, chers auditeurs.
Si vous voulez le visiter dans la journée, c'est possible.
C'est possible, bien entendu. 4€ pour un adulte, 2€ pour les enfants et 400€ pour la nuit, pour 9 personnes. Ça commence à 400€.
Si vous pour les 9,
pour
attendez,
les 9,
c'est
hein,
pas par tête.
Ouais,
depuis,
pour les 9, à partir de, et ça va jusqu'à 900€ en haute saison. Donc, faut prévoir, c'est un budget, mais si on s'y prend tôt et si on est à plusieurs, ça peut être assez rigolo.
Oui, c'est vrai, original. Non, c'est parce qu'elle le dit même, il n'y a pas beaucoup d'endroits où
Exactement.
On peut dormir dans un phare, même en Bretagne. Pas loin, on peut déguster une crêpe, moindre des choses.
Et si on est en Bretagne, bien sûr, il y a toujours une crêperie pas loin. Là, j'ai choisi la crêperie La Route des Phares, bien entendu, à Lilia, c'est à 5 km de Plouguerneau, on est au bord de l'eau. Et William, je vous ai commandé le roulé de la mer.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est une crêpe de sarrasin. Saint-Jacques sur roulé blé noir au beurre blanc et à l'émental.
Sur roulé, c'est quoi ? D'accord. Elle est pas pliée, elle est roulée.
Voilà. Je vous ai mis un peu de salade quand même aussi. Il y a de la poitrine fumée grillée. Le tout, 14,90.
Ça va.
C'est bon là, c'est l'heure
par rapport au
déjeuner.
Tarif Île-de-France,
c'est pas mal.
Pour ne pas dire Paris, c'est pas mal du
la
tout.
La crêperie
même.
La Route des Phares à Lilia.
Nous voici maintenant à Nîmes, un site dit du patrimoine dans notre langage à nous dans cette émission. Un site qui va vous permettre de tout savoir sur l'occupation romaine en Gaule, puisque dans le Gard, on y a trouvé de nombreux vestiges de cette période que l'on appelle, bien sûr, l'époque gallo-romaine. Et le centurion Gavis Clémenté Ruiz du Guide du Routard se propose de vous dire ce que vous pourrez voir dans ce musée unique en son genre. Hein. Remarquez, Clémenté Ruiz Gavis. C'est pas très romain comme nom, Clément
Pérus.
Non,
mais c'est...
Je vous dis centurion, histoire de faire le rigolo, mais en
fait, Espagne, il y avait pas mal de romains aussi. Hein.
Ah oui, ils sont passés par là aussi.
Oui, ils sont passés par l'Espagne. Alors, on est au 1er siècle, William, avant Jésus-Christ. On appelle ça, à l'époque, la Rome française. Hein. C'est comme ça qu'on surnommait Nîmes. Oui. On dit que c'était la ville qui était la plus chère au cœur de l'empereur Auguste. Mm-hmm. Il l'a adorée. Du coup, rien n'a été trop beau pour valoriser en quelque sorte ce véritable carrefour des relations entre la Gaule, l'Espagne, qui m'est chère, et la Rome antique. Et vous allez voir, les exemples ne manquent pas. Il y a la Maison Carrée, bien sûr, qu'il avait demandé
toujours
à
là.
Construire. Oui, toujours là. Il y a le théâtre, bien sûr. Il y a l'amphithéâtre.
Oui.
Il y a les aqueducs pour l'eau, bien sûr. Et Nîmes n'a vraiment pas volé son nom de Rome française.
Et donc, ce musée de la romanité, il s'imposait finalement. Il présente les plus beaux vestiges de cette époque. Il est remarquable aussi par son architecture. J'ai trouvé ça une très bonne idée de les mettre l'un en face de l'autre.
Hein, ce musée et les arènes. Je trouve ça un coup de génie. Il date de 2018. Il a été ouvert en 2018, le musée de la Romanité. On le doit à l'architecte Elisabeth de Pozzampar. Mm-hmm. Et il a été construit opportunément, juste en face, pour que en quelque sorte que les arènes se reflètent dans ce musée.
Oui, c'est ça qui est
le contraste est vraiment saisissant et c'est ça qui est intéressant.
Entre les deux édifices, ils n'ont rien à voir, évidemment.
Ouais. D'un côté, vous avez la pierre blonde, l'architecture tout ovale des arènes. Et de l'autre, vous avez le côté quadrilatère, super contemporain. Il y a la façade qui rappelle le côté aussi ondulé des toges romaines, avec 7000 carreaux de verre. Imaginez 7000 carreaux de verre. On voit bien le mouvement. Ça change en fonction de l'éclairage et du jour. C'est vraiment très, très beau. Et je trouve que le mélange, c'est vraiment un accord parfait pour moi.
Alors ça, c'est pour l'extérieur et à l'intérieur maintenant.
J'ai envie de dire que c'est encore un peu plus intéressant. Mm-hmm. 2500 mètres carrés d'exposition, 5000 pièces sur les 25 000 qui sont détenues par le musée sont visibles. Mm-hmm. Vous avez des bas-reliefs, il y a des fresques, des statues, des céramiques. Bref, vous saurez tout sur Nîmes et sa région depuis l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge. Et ça, c'est un beau voyage qui n'a pas de prix.
Oui, un sacré voyage même. Dans le temps qu'on vous propose maintenant, nous sommes en ligne avec Nicolas Delarquier. Il est conservateur en chef du musée pour en parler avec lui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors dites-moi, c'est assez gonflé finalement d'avoir construit ce musée d'une telle facture juste en face des arènes. Mais au fond, là, c'était la bonne idée. Au début, on pouvait se dire, tiens, ça va se heurter. Ben non, ça marche. Hein.
Bah, c'est vrai que c'était osé, hein. c'était peut-être un pari risqué.
Oui, oui.
Mais je crois que ce que vous venez de dire à l'instant est tout à fait exact. Je pense que le pari, il est vraiment réussi. L'idée, vous l'avez rappelé, c'était d'implanter le musée en proximité immédiate de l'amphithéâtre pour faire en fait dialoguer les collections du musée avec le monument antique emblématique par excellence de Nîmes. Et en même temps, on a quand même une proposition architecturale, même si elle est osée, même si elle est extrêmement contemporaine et vraiment somptuaire, en même temps, elle a su rester discrète. C'est-à-dire qu'elle sait rester au deuxième plan, derrière les arènes, et laisser les arènes vraiment en magnificence au milieu de la place.
Oui, elle ne pollue pas les arènes, elle ne lui mange pas son air. Elle est là, elle est discrète, mais on la voit quand même, quoi.
On la voit quand même, elle est discrète, elle dialogue, et franchement, elle ne fait qu'embellir...
C'est ça, le résultat est assez saisissant. Alors, à l'intérieur, expliquez-nous comment vous l'avez organisé, c'est-à-dire c'est par ordre chronologique ou alors c'est par thème ou c'est les deux à la fois?
C'est un peu comme ça souvent dans les musées d'antiquité, on est sur des plans chronothématiques, comme on dit, parce qu'en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va présenter plusieurs périodes de l'histoire du Languedoc oriental, avec vraiment une première entrée sur la proto-histoire, donc c'est les Celtes dans le Languedoc oriental, ensuite un grand plateau sur l'époque romaine, puis ensuite l'époque médiévale et ce qu'on a appelé aussi le legs de la romanité, c'est-à-dire comment les collectionneurs et les érudits nîmois des 18e et 19e siècles redécouvrent l'Antiquité avec les premiers temps de l'archéologie.
Ah oui, vous avez parlé des Celtes, ils sont passés par là aussi?
Ah bah de toute façon, avant l'arrivée des Romains en Gaule, la Gaule est complètement celte. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les Gaulois, en fait, c'est une myriade de peuples celtes. Donc en effet, il y avait un peuple qui s'appelait les Volques Arécomiques qui occupaient cet espace-là avant la conquête romaine.
D'accord. Donc ils sont descendus très bas, si j'ose dire, parce qu'on avait l'impression, quand on ne connaît pas l'histoire aussi bien que vous, qu'ils s'étaient cantonnés au nord de la France, au nord-ouest, et qu'ils n'étaient pas descendus aussi bas. Il paraît que vous avez des pièces tout à fait remarquables. D'après vous, les plus belles, ce sont lesquelles ?
Ouais, bon, c'est toujours très compliqué de demander ça à un conservateur, parce que nous, on n'est pas censé faire une hiérarchie entre les pièces.
Mais c'est pour attirer le chaland.
C'est important pour les visiteurs, oui, c'est important pour dire que... C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pièces archéologiques qui sont des pièces du quotidien, de tous les jours, vraiment. Et puis, évidemment, il y a des chefs-d'œuvre qui procèdent vraiment de l'art. Hein. On peut vraiment parler d'art. Alors moi, je parlerai, pour l'époque proto-historique, vraiment du buste du guerrier de Grésan. C'est un buste de guerrier qui montre qu'il y a un important témoignage de la sculpture proto-historique, et on n'a pas forcément ça en tête quand on réfléchit justement à l'Antiquité. Et puis pour la période romaine, on a deux stars évidemment, hein, qui sont la statue fontaine à l'effigie du dieu Neptune et la mosaïque de Pinté, une très très belle mosaïque qui a été trouvée en 2007 à Nîmes, et qui montre en plus une iconographie très très rare.
Mais il n'y a pas les jardins de la Fontaine à Nîmes, il me semble, non ?
Alors oui, les jardins de la Fontaine, c'est un des sites très important de Nîmes. C'était l'emplacement, si vous voulez, du sanctuaire sacré originel, et ensuite qui est devenu un lieu de culte impérial.
C'est l'une des missions du musée, finalement, c'est de montrer tout ce qui existait avant Rome et après le passage des Romains, quoi, jusqu'au Moyen-Âge au minimum, quoi.
Mais c'est ça, de toute façon, le but d'un musée, c'est de remettre des collections dans leur contexte historique et avec ça, de raconter à la fois la grande histoire et des histoires, parce que dans la grande histoire, il y a plein d'histoires. le musée de la Romanité, voilà, il se focalise vraiment sur le Languedoc oriental, et il voulait montrer, bien sûr, qu'il y avait quelque chose avant l'arrivée des Romains, et que c'est sur ce quelque chose que la romanisation, c'est-à-dire la diffusion du modèle romain, va s'appuyer.
D'accord.
Et après, par contre, c'est sûr que pour la période médiévale, on a appelé ce musée le musée de la Romanité parce que à la période médiévale, si vous voulez, vous avez aussi des réminiscences de l'Antiquité, mais on est dans quelque chose de très différent. Il ne faut pas imaginer une continuité directe entre l'époque antique et l'époque médiévale, mais des réminiscences.
Alors, vous utilisez évidemment beaucoup le numérique, on est en 2022, alors c'est-à-dire des maquettes interactives. Alors, je suppose que ça intéresse un peu plus le jeune public, qu'on voit pas toujours d'ailleurs dans les musées, non ?
Plutôt même que d'intéresser le jeune public, c'est vraiment avoir le mode de communication et d'apprentissage d'aujourd'hui.
Et oui.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on apprend par l'image, par la vidéo... par quoi d'autre ? Par les tutoriels, les reportages, les reconstitutions 3D, la réalité virtuelle. Tout ça, c'est des outils qui ne concernent pas d'ailleurs uniquement la jeune génération. Alors c'est vrai que c'est le mode de communication de la jeune génération. Donc nous, notre devoir en tant que musée, c'est de parler le langage de toutes les générations. Donc on va avoir à la fois l'écrit, à la fois le numérique pour correspondre à tous. Mais ce serait une erreur à mon avis de faire que les musées restent des lieux de pédagogie écrite et de discours en mode conférence, vous voyez, parce que on a quand même coutume de dire que une image vaut mieux que de très longs discours, et c'est vraiment ça qui a été développé au musée de la Romanité. Il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de numérique.
Oui, ce qui fait que ce musée est unique en son genre, en tout cas pour cette période gallo-romaine et avant et après. Il y a des expositions aussi. Quelle est celle du moment?
Alors l'exposition en ce moment, c'est une exposition sur la civilisation étrusque. L'objectif, c'était de présenter vraiment un grand panorama sur les Étrusques, parce que c'est quand même une culture qu'on n'a pas trop coutume de nous apprendre dans les écoles. Les latinistes en parlent un petit peu, mais il y a de moins en moins de latinistes en plus. D'accord. Donc l'idée, vraiment, c'était un panorama général sur les Étrusques.
Très bien. Bon, je précise aussi, alors ça c'est pour le touriste que je suis, ce musée-là, c'est aussi un jardin, il y a un resto, il y a un rooftop tout là-bas en haut, et on peut donc aller prendre un verre avec modération, bien sûr, mais un verre quand même. Donc ça veut dire qu'on peut y rester un moment, quoi, il y a tout ce qu'il faut.
Ah oui, voilà, les musées aujourd'hui, c'est plus des lieux poussiéreux avec des vieux objets en vitrine, c'est vraiment des lieux de vie. Où on peut venir même pour faire autre chose que visiter le musée, pour manger, pour prendre un verre, pour se promener dans le jardin qui est très agréable.
Et puis en plus, quand vous avez fini, vous allez aux arènes ou l'inverse, il y a de quoi faire.
Oui.
Bon, voilà, merci pour toutes ces précisions, Nicolas, sur le beau musée de la Romanité. C'est à Nîmes, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, dans le vieux Nîmes, il y a de quoi se promener pendant des heures. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci, au revoir, Nicolas.
Bon, merci beaucoup, au revoir.
Alors Gavins, d'autres informations pour cette visite-là et pour les autres ?
Alors, comptez 9 euros pour la visite pour les adultes, 12 euros avec la visite guidée. C'est pas beaucoup plus cher et c'est tout aussi intéressant. C'est gratuit pour les moins de 7 ans et c'est ouvert tous les jours en été de 10h à 19h. Et bien sûr, on peut aller manger, on peut aller boire un verre, etc. etc.
Alors, dans cette grande ville, il y a tout ce qu'il faut sur le plan de l'hôtellerie. Un hôtel à choisir
c'est... J'ai choisi tout proche l'hôtel de l'Amphithéâtre, le bien nommé. C'est à 30 mètres des arènes, donc vous êtes vraiment aux portes de... vous serez les premiers dans le musée, si vous voulez, aux premières loges, dans une grande maison du 18e siècle, avec un décor un peu vintage, assez raffiné. À partir de 75 euros la nuit pour deux personnes.
Ça va, ça.
Hôtel de l'Amphithéâtre.
On connaît pire. Hein. Et
à Nîmes, ouais. En plein cœur.
Vous n'aviez peut-être pas eu l'idée, en vous déplaçant en France, de faire une halte près de Toulouse pour visiter l'un des sites les plus remarquables de l'industrie française, connu dans le monde entier. Hein. Il s'agit des usines d'Airbus. Monsieur Gavins qui est monté Ruiz, son guide du routard sous le bras, va vous dire ce qui vous attend là-bas. Parce que moi, a priori, disais, c'est une usine. Bon, ça ne se visite pas forcément. Mais celle-là, oui, quand même.
Eh bien, oui, William, elle se visite. Nous sommes à Blagnac, dans la grande périphérie de Toulouse, William, à une dizaine de kilomètres au cœur de la Haute-Garonne. C'est là que sont installées, depuis une cinquantaine d'années à peu près, les usines de Airbus qui fabriquent et qui assemblent ce fleuron de l'aéronautique européenne et mondiale. Mmh. Imaginez, il y a plus de 23 000 personnes chaque jour qui viennent travailler sur cet immense site.
Alors, quand on dit un site immense, alors c'est pas qu'une impression, hein, franchement.
Ah ouais. Ça fait plus de 700 hectares, c'est le plus grand site d'Europe.
Ah oui, mais quand on visite, on ne fait pas tout à pied quand même.
Alors non, rassurez-vous, sur le site de fabrication des Airbus, il y a plusieurs parcours. Il y a un parcours qui est réservé aux enfants, il y a un autre pour découvrir l'histoire de l'aviation toulousaine, et avec une extension pour les avions militaires et commerciaux, et on circule en bus sur le site, donc n'ayez crainte. Pas de souci, vous pouvez le faire pour tout le monde.
Et pas en trottinette, en bus. Parfait. Nous sommes en ligne, ça tombe bien, avec Yannick Pressico, qui est responsable de la formation et qui est visite du groupe Manatour, qui est l'organisateur de tourisme industriel. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour William.
Alors, nous, on ne sait pas tout de l'aéronautique, mais il y a quelques avions dont on connaît les noms. Et quels sont les avions qui sortent de cette usine d'assemblage et dont on entend parler de temps en temps ?
Alors, il y a beaucoup de chaînes d'assemblage à Toulouse. On assemble à Toulouse, par exemple, des A320. C'est la navette que vous prenez pour si vous venez nous voir à Toulouse.
D'accord.
Il y a aussi la chaîne d'assemblage des A330 qui vous emmène un petit peu plus loin, qui vous fait traverser des océans. Et puis, l'A350, et c'est vraiment celle que nous faisons visiter.
Est-ce qu'on peut voir des appareils commerciaux ? Bien sûr, mais aussi des appareils militaires où ça, c'est secret défense ?
Alors, c'est tout l'intérêt de la visite XL, hein, qui permet de parler de l'A400M, qui est l'avion de transport militaire européen de dernière génération. Et même, on monte à bord de l'A400M lors de la visite XL.
Hein. Oh, parce que ça, c'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'on a le droit de monter dans des appareils témoins ? Mais ce sont des appareils témoins qui sont finis, ils ne sont pas en cours de montage.
Alors, monter à bord d'un appareil qui aurait été commandé par une compagnie aérienne, c'est souvent problématique parce que relativement confidentiel. Mais l'A400M que nous ouvrons à la visite pour donc nos clients, lui, c'est un prototype. Donc on monte à bord et on découvre des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir quand on voyage à bord d'un avion.
Alors, juste un mot pour terminer sur un site voisin qui s'appelle Aeroscopia. Il paraît que là, on apprend autre chose, mais sur l'histoire en général de l'aviation. De quoi s'agit-il, là ?
Donc oui, en fait, c'est complémentaire. Visiter Aeroscopia peut tout à fait être combiné avec une visite d'Airbus. Aeroscopia, c'est le musée aéronautique de Toulouse-Blagnac qui retrace l'histoire aéronautique et un peu plus spécifiquement l'histoire des avions toulousains comme la Caravelle.
La Caravelle, bien sûr.
Et un Concorde.
Très bien.
On a même deux Concordes sur le musée Aeroscopia. Et le musée Aeroscopia, c'est aussi un lieu de vie et d'échange qui organise plein d'événements. Tout récemment, on a fait mission pilotage. On a accueilli plein de pilotes qui ont pu s'exprimer au grand public. Plein d'anecdotes. C'était vraiment passionnant.
Merci beaucoup, Yannick, pour cette visite rapide et précise. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir.
Merci. Au revoir, William.
Au revoir. Alors, Gavit, vous l'avez compris, il s'agit de visiter un site unique unique en Europe, quoi. Comment on fait les horaires, les tarifs, combien on peut être par groupe, etc.
Alors, pour les tarifs, ça va de 13 euros à 29 euros selon les circuits de visite retenus. On a compris qu'il y avait des versions allongées, ouais. XL. On peut même combiner avec Aeroscopia, mm-hmm. donc le site qui est juste à côté sur l'histoire de l'aviation. Mm-hmm. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, et c'est à heure fixe. Je vous conseille d'aller sur le site internet de Toulouse-Blagnac, ouais, pour ça. Bien comprendre pour Airbus.
Ouais. Et si vous êtes plusieurs comme ça pour réserver
exactement,
en groupe.
Exactement, et nous mettrons toutes les informations bien sûr sur europe1.fr. N'oubliez pas quand même, il faut avoir ses papiers d'identité, c'est un site un peu secret défense, hein. Et les photos sont interdites sur place, donc pour les souvenirs, on passera.
Évidemment. Alors dans cette émission, vous l'avez compris, il y a 4 sites très différents qui appellent votre curiosité, mais il y a aussi les confidences à chaque fois d'une personnalité que vous connaissez plus ou moins et qui raconte son enfance en France. Là, c'est sur un lieu qui a particulièrement touché, un jeune garçon et dont on vous recommande la visite également. Alors c'est au micro de Daniel Moreau, un homme né de l'autre côté de la Méditerranée mais qui a eu un coup de cœur terrible pour le midi de la France. Chaque été, Michel Boujda, car il s'agit de lui, dirige avec Jacqueline Franjou le festival de Ramatuel. C'est un village où il a passé de très belles vacances en famille justement. Et il se rappelle pour nous de cet été 1969.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
Alors vous dirigez avec Jacqueline Franjou le festival de Ramatuel qui va avoir lieu du 27 juillet au 12 août. On va évidemment en parler parce qu'il y a un programme très très alléchant. Mais je sais que votre histoire avec Ramatuel, elle remonte à votre enfance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
On se souvient tous du jour où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Et bien moi j'étais en vacances à Ramatuel, donc je ne peux pas oublier ce moment-là. Et c'était des vacances super, on avait loué un petit bungalow dans les bois et on allait à la plage de l'Escalé, qui est la plage de Gérard Philippe, tous les jours. Et j'ai passé des vacances vraiment inoubliables, très simples, très modestes, mais excessivement joyeuses. On avait eu un fou rire, je me souviens qu'il avait duré 2 jours, je ne peux pas l'oublier.
Oui, et c'était donc à Ramatuel. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu et nous donner envie ? Parce que je crois qu'il y a la plage de Pampelonne, qui est, c'est là où est né le mythe de Saint-Tropez, mais il doit y avoir aussi des endroits un peu qui sortent des sentiers battus.
La plage de l'Escalé est magnifique. Pampelonne, c'est magnifique aussi, évidemment. Alors, il y a toutes les plages dont on parle dans les reportages de Saint-Tropez, mais en fait, elles se trouvent à Ramatuel. Et puis surtout, il y a le village qui est une merveille. Et surtout, il y a ce théâtre qui est magique, qui fait 1200 places, qui est la réplique du théâtre d'Épidaure, en plus petit évidemment, et qui a été construit en 30 jours, avec 3 équipes qui faisaient les 3-8. Quand le premier spectacle qu'il y a eu du premier festival de Ramatuel, il y a 38 ans, le béton n'était pas sec encore. Donc il y a une espèce de magie que je peux sincèrement pas expliquer, mais qui existe et qui est réelle.
Alors, ça me tente bien, moi, ces vacances-là. C'est quand même pas mal. Alors, le programme est magnifique. Il y a Patrick Bruel le 1er août. Il y a quand même Isabelle Adjani le 6 août. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a vraiment du théâtre, de la chanson ?
Il y a Calogero qui fait la clôture. Il y a du théâtre, bien sûr, avec... il y a Drôle de Jean, qui est une pièce avec Victoria Abril et Alexandre Astier, qui jouait au théâtre de la Renaissance. Il y a L'École des femmes, il y a Éric Antoine, il y a François-Xavier de Maison avec Divin, qui est un spectacle divin, vraiment. Donc voilà, il y a tout ça, c'est très éclectique comme chaque année, c'est très mélangé. Tout ça montre un tableau de choses très très différentes qui existent dans le spectacle vivant aujourd'hui. Parce que pour être fidèle à Laurent Terzieff, pour moi le spectacle vivant c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça.
Si vous aimez le théâtre, si vous aimez le soleil, le sud de la France, des paysages magnifiques, eh bien ne ratez pas ce festival de Ramatuel du 27 juillet au 12 août, ça se passe dans un lieu magique. Merci Michel Boujna.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Oui, il connaît bien la région, il se déplace parfois avec un joli petit bateau le long des côtes. Alors quand il parle de la plage de la Bastide Blanche, il y en a quelques-unes comme ça, le long de cette côte. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas y accéder facilement. Donc il faut marcher longtemps avant de descendre à la plage, donc ça se mérite. Et vous arrivez en bas, vous êtes presque seul. Je dis bien presque, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, et le village, évidemment. Et toutes ces plages dont vous entendez parler dans certains films ou alors dans des reportages. Et c'est vrai que la plupart se situent sur la commune de Ramatuel et pas tout à fait sur Saint-Tropez. Voilà. Et puis, Bravo à Michel Bougenin et à Jacqueline Franjoux, parce qu'ils perpétuent l'œuvre de Gérard Philippe, et c'est Jean-Claude Brialy qui a présenté ce festival pendant longtemps. Dans la dernière séquence de cette émission, en fin de matinée, durant l'été, nous vous proposons de prendre l'air. Alors, ce n'est pas simplement une petite balade. Là, vous n'auriez pas besoin de nous. Mais nous, nous cherchons les balades les plus originales, celles que vous n'avez pas encore faites et que vous seriez tenté de faire si vous êtes en vacances ou si vous habitez dans le coin, mais vous n'en aviez pas entendu parler. Et ben voilà, on arrive. Ce matin, direction Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Pour vous déplacer, c'est là que réside toute l'originalité dont je vais vous parler maintenant. On a déjà fait la promenade à cheval dans cette émission, la promenade derrière des chiens de traîneau. On a fait aussi la promenade en trottinette électrique dans la forêt, oui, on a fait ça, il faut faire attention de pas d'éviter les arbres. Et bien, on vous propose maintenant de vous déplacer en sidecar. Ben, c'est le pilote du guide du routard, Gavin Clémenterus, qui va vous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît.
Oui, William. Et ben, c'est Éric Loisil, qui habite à Aix-en-Provence, qui est fou de sidecar, qui a eu l'idée, eh bien, en fait, de proposer ces belles échappées. Belles échappées, d'ailleurs, c'est le nom de sa société. C'est installé là-bas, dans la région.
Donc, on est dans un sidecar et on a un chauffeur à côté, un pilote de la moto. Ou alors, c'est vous qui pilotez la moto et vous avez à côté un invité ou une invitée à côté de vous. C'est comment ?
Alors, c'est ça. C'est très simple. Les pilotes de sidecar viennent vous chercher au point de rendez-vous que vous leur fixez. Mm-hmm. Ça peut être votre hôtel, ça peut être chez vous, devant votre résidence, que sais-je. Et ils seront votre pilote et votre guide à la fois. Vous pouvez vous être dans le sidecar et vous pouvez avoir quelqu'un derrière le pilote. Donc vous êtes à deux, en
d'accord,
gros, et à trois avec le guide et le pilote.
Et les pilotes, ils sont du coin. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils connaissent les meilleures routes et les plus beaux points de vue, je suppose. Hein.
C'est exactement ça. C'est ça qui est très malin, parce que vous êtes avec la personne qui connaît le mieux la région. Elle vit sur place. Donc, elle va vous présenter la région de Cézanne, mais en prenant les petits chemins de traverse. Elle ne va pas vous montrer le chemin direct, l'autoroute. Non, on va prendre les itinéraires bis. C'est la Provence au ras des fleurs, au ras des pâquerettes. Non, mais au ras de la lavande. Presque.
Oui, alors évidemment, je suis obligé de poser la question qui pourrait fâcher en disant « Oh oui, dis donc, en moto, ça pollue un peu quand même. » Il y a sûrement qui doivent se dire ça, non ?
Oui, bien sûr, ils ont raison, mais ça ne pollue pas plus qu'un véhicule normal. Et avec le sidecar, vous pouvez faire des kilomètres le nez au vent. Et là, j'avoue que c'est quand même assez unique. Il faut en profiter.
Alors, justement, nous sommes en ligne avec le créateur, Éric Loisil, pour en savoir un peu plus. Bonjour Éric.
Bonjour William.
Alors, c'est une bonne idée ça. Non seulement vous faites de la moto, ça doit être une de vos passions, mais en plus vous faites découvrir votre région.
Bien sûr, tout à fait. C'est un peu le but justement de découvrir la région autrement avec nos sidecars. Donc moi, à l'origine, je suis parisien et je suis venu justement découvrir la région, qui est une région que je ne connaissais que trop peu. Mm-hmm. Donc j'ai découvert avec les agneaux lorsque je suis arrivé en Provence, et ça m'a donné l'idée justement de faire découvrir la Provence en moto. Comme j'étais fan de moto, je me suis dit ça peut être sympa de faire découvrir à des couples, parce que le sidecar permet justement d'emmener des couples, de faire découvrir vraiment la région à des gens, et c'est vraiment propice à cette activité d'être dans un side et de découvrir la région qui est riche de plein de choses.
Mais comment ça s'est passé ? Parce que vous, je vous imagine, vous êtes là avec des copains en moto, et comme on le voit souvent, des groupes de motards qui se baladent pour visiter. Vous êtes rendu dans cette région. Est-ce que vous y résidez du coup tellement ça vous plaît ? Est-ce que vous en avez fait une activité à plein temps ?
Bien sûr, c'est une activité à plein temps. Et moi, je suis depuis 5 ans sur Aix-en-Provence. Ah, c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses à voir, du Luberon, des Gorges du Verdon, d'Aix, Marseille, Cassis, Bandol, la Provence est très très belle. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'idée, dès que j'ai vu la richesse culturelle et puis gastronomique aussi sur la Provence, j'ai dit tiens, ça peut vraiment être une belle activité à proposer aux gens. Une idée un peu originale de pouvoir découvrir en plein air, surtout avec la période du Covid d'où on sort. Donc c'est vrai qu'on a réussi à faire une belle activité pendant cette période de Covid. Et effectivement, on arrive à travailler de février à novembre sans aucun souci, avec la météo qui est très clémente chez nous, donc sans aucun problème.
Alors, est-ce que vous avez des circuits particuliers que vous avez choisis, délimités, ou alors vous faites toujours les mêmes, ou alors c'est à la demande du client ? Est-ce qu'il y a ça aussi ? Vous voyez, la visite à la carte ?
Bien sûr, on a justement tout ce panel. On a la chance d'avoir d'avoir donc la création, la créer des tours sur des thèmes. Donc, nous, nos thèmes, c'est plus en temps. Donc, c'est des balades de 45 minutes, 2 heures, journée. Ah. Et sur des thèmes particuliers. Donc, on a des visites sur les lavandes, les visites d'huile d'olive, on a les visites des produits du terroir, on a aussi les calissons, on a aussi tout ce qui est chocolaterie de Pierre Ricard. On a aussi, bien sûr, des domaines viticoles.
D'accord.
Où on peut faire des belles visites justement pour voir comment est fabriqué le vin.
Alors c'est ça, ça varie en fonction du temps que vous consacrez à la visite. Et donc le prix varie également et le lieu que vous visitez est différent. Par exemple, si je vous dis, oh ben j'aimerais bien suivre, imaginons ça, les traces de Paul Cézanne. Alors vous nous emmenez dans quel endroit par exemple ?
Ah ben là on part d'Aix-en-Provence, donc on équipe les personnes. On leur explique un peu le déroulement du parcours. Donc, on va partir vers le village du Tolonnais. Après, on va pouvoir longer toute la montagne Sainte-Victoire avec ces magnifiques genêts, ces petites couleurs de lavande qui sont juste dans la période de juin, juillet, août. Mais c'est vrai qu'on a une chance d'avoir une très belle Sainte-Victoire avec toutes ces vignes à perte de vue et ces forêts aussi, puis avec la montagne de Sainte-Baume qui se trouve de l'autre côté de la vallée. On peut voir au loin, mais très loin, on imagine Cassis, on imagine Marseille, donc on peut se laisser imaginer plein de belles choses, mais c'est vrai que on est caressé par les odeurs de la Provence pendant tout le parcours, et ça fait énormément de bien à tout le monde.
Et vous voyez la Sainte-Victoire telle que la peinte Paul Cézanne tellement souvent. Alors, je suppose que, Eric, vous prévoyez tout, c'est-à-dire qu'on peut faire des haltes, on doit faire des haltes, on se ravitaille, on casse-croûte, on boit un coup, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Exactement. Exactement, lorsqu'on s'arrête pour les domaines viticoles, aussi bien de vin, donc
oui, là,
on peut s'arrêter faire une
visite
de dégustation, et après on fait des domaines de bière aussi qui sont sur Aix-en-Provence, et les gens peuvent aussi, comme vous dites, se ravitailler, comme on a des paniers avec des coffres, donc les gens peuvent ramener ce qu'ils veulent pour avoir des bons souvenirs de la Provence.
Calisson, ça marche. Oui,
on va sur le musée du Roi René qui se trouve sur Puricard, et là on a une petite visite un peu l'histoire des calissons. On a aussi un atelier où les gens peuvent aussi fabriquer leurs calissons. Donc ça, c'est sur rendez-vous. Je ne peux pas arriver comme ça à l'improviste. Mais il y a plein de belles choses à faire et des très belles choses de tout partout dans la région provençale.
Quand vous faites une balade en groupe, vous êtes à combien de motos ?
Alors, on peut aller jusqu'à 10 motos, donc on peut transporter 20 personnes.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc là, c'est une grosse logistique, mais la moyenne des balades qu'on fait aussi bien sur Cassis, Marseille et Aix, c'est 4-6 véhicules.
Oui.
C'est surtout les balades familiales ou alors entre amis.
C'est ça qui est intéressant, parce que si on est un petit groupe de copains ou en famille, ben on peut aller jusqu'à 20, quoi. Ensemble, pour partager.
Oui,
d'accord.
Et les enfants, ils adorent être dans le side.
C'est accessible à partir de 5 ans, donc nous on a les casques pour équiper les enfants, et jusqu'à 100 ans on a déjà fait 2-3 fois des centenaires pour se remémorer un peu leur moto d'antan.
Formidable.
Ouais, on a déjà fait.
Formidable. Je ne vais pas tarder à venir. Alors,
vous avez un grand plaisir. On a le temps quand même. Hein.
Eric, une question plus personnelle. Est-ce que vous portez la barbe ?
Exactement.
Ah, je m'en doutais un peu. Pourquoï ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, avec Maëlle Jacquet, qui s'occupe de cette émission aussi, c'est qu'elle m'a présenté des photos de vous. Enfin, je vois des hommes barbus sur la moto.
Oui, tout à fait.
Je me suis dit, pour être pilote dans cette... Il faut avoir une barbe, quoi.
C'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'on... c'est un peu la mode dans ce moment, donc les gens ont la barbe.
Oui, c'est la mode, je vois bien.
Alors, ce n'est pas un critère de sélection.
D'accord. Bien joué. Bravo Eric pour cette originalité-là. Merci pour cette balade. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir Eric.
Merci beaucoup. Merci William. Merci Alain.
Allez, Gavins, maintenant, expliquez-nous quelques informations complémentaires pour cette balade qui est très originale.
Alors, plusieurs options possibles, William, pour cette belle échappée. Alors, à partir de 45 minutes pour les villages aux alentours de Aix-en-Provence, sans stop, c'est 79 € par sidecar avec le pilote. Donc, ça va, c'est assez correct. Et pour un tour de 2 heures, 219 €. Pour une demi-journée, 419 €. Le pique-nique est possible, ça s'appelle La Belle Échappée, c'est à Aix-en-Provence, et nous mettons toutes les informations sur europe1.fr.
Oh, c'est la moindre des choses. Alors pour ceux qui auraient loupé le début de l'émission, bon ça va pour cette fois, mais il ne faut pas oublier, hein, dites-le autour de vous, dans l'immeuble, chez les voisins d'à côté. C'est le samedi à 11h sur Europe 1, bien sûr. Et si vous voulez écouter en podcast, voici les récapitulatifs. Alors des 4 sites que nous vous avons proposé aujourd'hui. Allons-y.
Alors, nous avons dormi dans le Finistère. C'était dans un phare sur l'île Vierge, l'île déserte quasiment, en face de Plouguerneau. Ensuite, nous sommes allés à Nîmes dans le Gard. Là, nous avons visité le musée de la Romanité. C'est juste en face des arènes.
Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein.
Ouais, vraiment, c'est juste là. À Blagnac, près de Toulouse, on a tout compris sur l'assemblage des Airbus en visitant les usines de fabrication des célèbres avions. Mmh. Là aussi, le tourisme industriel le vent en poupe, profitons-en. Et enfin, on vient de terminer à Aix-en-Provence. Dans les Bouches-du-Rhône, nous avons fait une belle échappée en sidecar au milieu des champs de lavande.
Alors, pour finir, dans l'actualité culturelle française, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Un livre, une expo, tiens, un compte Instagram, on n'a pas fait ça encore.
Non, pas encore. Eh bien, on le fera peut-être, mais pas aujourd'hui. On va aller d'abord faire une expo, William, cette semaine. Ça s'appelle Destination Cosmos. Alors, c'est une exposition immersive. Ça, c'est très à la mode. Hein. On est dans les anciennes carrières de pierre, des Baux de Provence.
Ah oui, bien sûr. Ouais, avec des projections sur les murs.
Ah, ouais, c'est vraiment très beau. C'est beau et c'est rafraîchissant. Et quand il fait très, très chaud l'été, je vous conseille parce que on descend un peu sous terre. Donc, on est préservé du chaud. On découvre, le temps d'une balade, un autre endroit. On quitte la Terre. On se prend pour Thomas Pesquet. On fonce vers Mars avec les rovers. On sillonne les supernovas, on plonge au cœur de Jupiter et des anneaux de Saturne, on est immergé dans cet espace.
C'est une grande balade là aussi.
C'est balade immersive, il y a le son, il y a l'image, il y a la musique, c'est vraiment très beau, c'est aux Carrières de Lumière, au Beau de Provence, et c'est jusqu'à fin 2022, profitons-en.